B-A-B-A, blabla. C'est un peu surprenant comme titre, hein. Je le conçois. Alors, au commencement, Dieu créa. On se souvient de l'histoire. Et on sait que du premier au cinquième jour, il a créé toutes sortes de choses. Et puis, le sixième jour, il a créé l'homme. Et dans les différents scénarios qu'on pourrait imaginer du jour où le premier homme a été créé, on pourrait s'imaginer ceci. J'ouvre les yeux, j'entends, j'ai une sensation bizarre. C'est comme un vent. Je sens une vie qui est semblable à la mienne, familière, une présence. J'ouvre les yeux et je le vois. Il me sourit. Je suis bien. Je ne suis pas seul. Il me parle. On pourrait envisager que les choses se soient passées comme ça. On ne sait pas exactement, mais ça aurait pu se passer comme ça. Une présence familière, une présence bienveillante du Créateur, un sourire, une bienveillance. Et bien sûr, le sentiment de ne pas se sentir seul. Et bien sûr, avec ce premier Adam, naît quelque chose d'extraordinaire, de fantastique, la relation. Une relation commence. Parce que c'est ça dont il est question, dès le départ, une relation. Une relation entre Dieu, le Créateur, et Adam, sa créature. Et dans cette bienveillance, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait faire un bel effort d'imagination pour envisager le genre de liberté, le genre de bienveillance et d'environnement extrêmement bon, bienveillant, dans lequel Adam était posé. Un monde, alors il faut bien rêver, hein, un monde sans stress, un monde totalement paisible, un monde idéal pour vivre, pour aimer la vie, complètement, sans retenue. Et c'est dans cette relation que l'humanité commence. Et c'est dans cette relation aussi que l'avenir de l'humanité est envisagé dès le départ. Dans cette bienveillance, dans ce sourire de Dieu, dans cet amour de Dieu. Et puis tout de suite, on voit que dans cette relation, eh bien, le jardin est le lieu de cette rencontre. Un jardin, et si vous pouvez envisager un jardin, c'est quoi un jardin? Ben, c'est différent que cette salle. Un jardin, c'est plein de couleurs, c'est plein de senteurs, c'est plein de saveurs aussi. C'est plein de bruit léger, de bruit doux. On peut y entendre des oiseaux, des insectes, des animaux. Et Adam et Dieu se promènent ensemble, dans cette harmonie de sons, de couleurs, de saveurs, de senteurs. Et très rapidement, Dieu va orienter l'humanité d'une façon très singulière. Parce que au cœur de cette relation de confiance, parce qu'on sent que cette relation, elle est intime, c'est une relation de confiance, eh bien Dieu, au milieu de cette relation d'amour, de bienveillance, de confiance, il va susciter la connaissance. Et il va demander à Adam, bah, toi nomme ces animaux, nomme-les. Et puis, la Bible nous dit que Dieu va entendre, va écouter comment l'homme va nommer ces différents animaux. C'est incroyable. D'ailleurs, soit dit en passant, dans le Coran, le même passage est reporté dans la sourate 2, Al-Baqarah, qui dit que Allah envoie son ange vers Adam pour lui apprendre les noms des animaux par cœur. Ça paraît une petite différence, hein, mais en réalité, c'en est une énorme. C'en est une énorme. Parce que Dieu, lui, provoque la connaissance. Il veut que l'homme, Adam, puisse nommer, puisse verbaliser. Et puis, on imagine tout le travail. Alors, pour les enseignants au milieu de nous, hein, vous imaginez tout le travail de sélection, de triage, de verbalisation. Nommer, préfixe, suffixe. Ah ouais, tiens, celui-là, il a un sabot fendu. Celui-là, il a ceci, il a cela. C'est tout un boulot, et puis pas simplement un boulot, mais il faut encore retenir. Alors on ne sait pas, vu que la chute n'était pas encore arrivée, quelles étaient les capacités de l'homme à ce moment-là, mais en tout cas, il y a cette volonté de la part de Dieu vis-à-vis de l'homme de prendre part à cet environnement, d'être interagissant avec cet environnement, de lui-même le nommer, et puis avec ce mandat terrible, incroyable, qui donne un sentiment de liberté incroyable, toi-même cultive. Et la culture est née. Et pas simplement la culture des semences agricoles, mais toute culture, de toute semence que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Artistique, verbale, de danse, d'expression corporelle, de mathématiques, parce que c'est fantastique. Moi, j'ai un de mes fils qui est en admiration devant certains théorèmes. Elle dit « Ah non, mais celui-là, il est beau quand même. » On n'a pas les mêmes dons. Mais Dieu nous a créés comme ça, avec ces formes d'intelligence qui sont différentes. Et Dieu se réjouit de tout ça. C'est fascinant de voir cette relation d'intimité avec le Créateur. Et puis, tout à coup, boum, badaboum, par terre. Chute. Et avec la chute apparaissent la mort et la relation entre Dieu et l'homme est perturbée, en fait, au moment de la chute par une suggestion qui est totalement perverse. Cette suggestion, c'est de dire « Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. » Choisissant vous-même entre le bien et le mal. » C'est dans Genèse 3, hein, verset 5. « En paraphrasant le diable, on pourrait dire, il y a tout ce qu'il faut dans le jardin pour que vous soyez tout-puissant comme Dieu. Il y a tout. Mais je vous dis un secret. Il ne veut pas que vous soyez tout-puissant comme lui. C'est pour ça qu'il vous a dit de ne pas manger. Mais allez-y, mangez-en. Vos yeux s'ouvriront et vous connaîtrez tout comme Dieu. Vous serez comme lui. Allez-y, c'est cool. » Et en fait, en réalité, lorsque Satan dit ça à Adam, Satan, en réalité, est en train de suggérer qu'il y aurait une intention mauvaise de la part de Dieu dans l'interdiction qui a été faite de ne pas manger de cet arbre. C'est ça, en fait. C'est qu'en réalité, au beau milieu du jardin, dans l'émerveillement de la rencontre, la relation, elle est corrompue par cette salissure-là, de prétendre, de suggérer qu'en réalité, Dieu n'est pas si bon qu'il le prétend. Que Dieu ne veut pas qu'il mange parce que, justement, il ne veut pas, c'est tout. Pourtant, Dieu n'a pas mis cet arbre-là par hasard. Et Dieu conduira, alors, ça c'est mon interprétation, et je pense, tout comme une maman ne va pas donner une choucroute garnie à son bébé de 3 mois, je pense qu'il y a un temps pour toute chose. Et que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Le mal est absent de Dieu. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de supercherie, il n'y a pas de calcul de la part de Dieu derrière ça. Je pense que tout simplement, il y a un apprentissage qui doit se faire. Et que probablement, en son temps, il y aurait eu cette possibilité de manger. Mais le vrai problème derrière tout ça, c'est quoi? C'est que Satan suggère un raccourci au processus divin et dit « mange ». Mais seulement, cette suggestion de Satan dit quoi, induit quoi? Elle induit que l'homme, pour croire et accepter ça, va quoi? Premièrement, va douter de la bienveillance de Dieu. Et c'est là que commence le péché, les amis. Douter de la bienveillance de Dieu. Et c'est là que l'escalier vers les derniers sous-sols est en train de s'ouvrir. C'est là que la chute commence. Douter de sa bienveillance. Et automatiquement, lorsqu'on doute alors de la bienveillance de Dieu, comme Adam, on sort de l'obéissance. Bah oui, on sort de l'obéissance. Et souvent, parfois, certains commentateurs de la Bible, à certaines périodes de l'humanité, ont pensé que la connaissance, en fait, était dangereuse et qu'il fallait empêcher de connaître. Parce que peut-être que c'était là le problème. Évitons de connaître, comme ça tout ira bien. C'est pas ça, parce que Dieu était déjà dans cette interaction avec Adam pour lui faire connaître tout un tas de choses et lui demander au contraire d'interagir, d'agir et de vivre dans cet environnement. Peut-être que c'est l'influence du siècle des Lumières aussi qui a séparé la connaissance de la foi, qui ont élevé la raison comme une déesse, comme seule source de vérité. Mais en réalité, dans ce passage, la connaissance, c'est pas le problème. La connaissance, Dieu la désire. Et ce n'est pas un problème pour Dieu, parce que Dieu nous conduit en tant qu'homme dans toutes sortes d'apprentissages, de connaissances. Mais en réalité, donc, la tentation est plutôt liée à cette autonomie, c'était la suggestion de Satan. Tu seras comme Dieu. Ou cette tentation, finalement, nous conduit l'homme à vivre de façon autonome, dans une autonomie dans laquelle on n'a plus besoin de cette relation. Et la chute nous fait réaliser que finalement, c'est ce cancer, hein, ce doute de l'amour inconditionnel de Dieu et l'absence de communion avec lui rend nos vies dangereuses, rend nos choix extrêmement périlleux. C'est comme un cancer, c'était tout... Pardon. Voilà. Il faudra demander au pasteur. Non, mais tu as raison. C'est des questions qui sont compliquées parce que on n'y était pas. Mais je suis. C'est clair qu'il y a quelque chose de précieux là. Il y a quelque chose de précieux. Il y a quelque chose de précieux qui nous dépasse très probablement et dont. Notre nature est incapable de toucher la profondeur du sens aujourd'hui encore. Parce que les dégâts de la chute ont provoqué un tel désastre dans notre capacité simplement de voir, de comprendre qui est Dieu et l'étendue de sa grandeur et de sa merveille que ça me semble difficile et assez périlleux d'essayer d'expliquer ça. Mais toutefois, j'invite David le plus tôt possible à répondre à cette question parce qu'il a fait beaucoup plus d'études que moi en théologie. J'ai hélas pas de questions, pas de réponses, mais j'ai plein de questions aussi, comme toi. Et je lisais justement un article sur le cancer récemment qui disait que justement c'est la transformation de l'ADN d'une cellule qui va en fait faire que cette cellule va se développer en incohérence par rapport à son milieu. Et que finalement va se développer, va drainer aussi tout un système sanguin pour recevoir de l'oxygène et des nutriments pour parvenir à se développer. Et je dirais que c'est un petit peu ça la chute, d'une certaine façon. C'est qu'il y a une partie de l'ADN qui est corrompue. Il y a une partie de l'ADN qui est corrompue et qui nous pousse à développer un système dans lequel on est notre propre finalité. Parce que finalement, quand Adam ouvre les yeux sur Dieu... Enfin, je suppose qu'il ouvre les yeux, en tout cas, et il réalise qu'il n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait pour vivre dans cette relation. Et la chute introduit cette idée que finalement, je peux devenir ma propre finalité. Alors que spirituellement, Dieu est notre finalité, et socialement, mon prochain est ma finalité. Au niveau spirituel, Dieu est ma finalité, au niveau social, mon prochain est ma finalité. Mais Dieu ne dit pas que c'est toi qui dois être ta propre finalité. Ça, c'est le germe d'Adam qui est tombé. Alors, oh là là, il faut que j'avance. Alléluia. Et finalement, l'homme, se retrouve prisonnier du choix de s'être choisi lui-même plutôt que Dieu. Et il suffit d'ouvrir un livre d'histoire ou même un simple journal pour s'en convaincre. Malgré une inextinguible soif et besoin de bonheur, on voit exposer un immense besoin de reconnaissance, de contrôle, de sécurité, en réponse à la crainte, à la souffrance et à la mort. Alors ça, c'est vraiment le gâchis, la chute. Et alors, je ne suis pas encore là non plus sûr d'avoir tout compris, mais la loi intervient. Alors la loi, pas tout de suite la loi de Moïse, mais des recommandations qui sont faites à Abraham, parce que Dieu désire, derrière ce gâchis ne signifie pas, et ce rejet du jardin d'Éden et de l'harmonie ne signifie pas la fin de l'amour de Dieu. Parce que des fois, on pourrait croire que ça y est, c'est cuit, c'est bon, c'est emballé, Dieu ne nous aime plus. Non, ce n'est pas la fin de son amour. On quitte cet environnement de béni, mais ce n'est pas la fin de son amour. Et là, Dieu va chercher à rétablir une communion nécessaire à son règne. Et on voit Dieu mettre en place une stratégie pour récupérer une certaine forme de qualité de relation. Mais on se rend compte que la nature du péché rend la chose très très compliquée. Parce que désormais, depuis la chute, le péché fait mourir et la fragilité de notre condition humaine est tellement énorme que c'est quasiment impossible. L'intimité perdue, l'iniquité omniprésente, la perversité de nos cœurs, toujours prompte à sauver nos peaux, premièrement. Même moi, le jour où je suis devenu chrétien, je cherchais à sauver ma peau. Je ne sais pas vous, mais on veut de la sécurité, on veut de la confiance, on veut être protégé, on cherche ça. Alors après, on découvre un autre Dieu qui nous ouvre à quelque chose de nouveau. Et c'est là que justement intervient le second souffle dont on parlait tout à l'heure. Le premier souffle sur le premier Adam, qui fait d'Adam une âme vivante, et le second souffle, celui qui nous vient, celui de l'Esprit, qui nous rend remplis de vie, vivifiant. Mais en attendant, cette loi vient parce que, comme le dit Ésaïe, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Alors Dieu va choisir Abraham, va lui donner un certain nombre de principes, pas simplement une alliance, c'est pas simplement le père de la foi, mais aussi le père d'un système de transmission, valeurs et de connaissances. Genèse 18, ces paroles que je te donne, non, c'est pas ça, c'est Deutéronome 6, « Car tu deviendras une nation grande et puissante, car je t'ai choisi afin que tu ordonnes à tes fils et aux gens de ta maison de marcher dans les voies du Seigneur en pratiquant la justice et l'équité. » C'est pas la loi, mais il y a déjà un certain nombre de principes à respecter. Et la loi aussi va servir à protéger les humains pendant ce temps de rupture. Pourquoi ? Parce que la loi est une expression de l'amour de Dieu, parce que Dieu, dans son amour pour l'homme, il ne peut plus directement intervenir et mettre son esprit en eux pour qu'ils comprennent et qu'ils aient ces lois gravées dans leur cœur. Donc il va donner un certain nombre de principes en disant « Voilà, si vous faites ceci, ça va marcher. Si vous faites ça, ben, ça ne va pas marcher. Mais moi, je vous aime, alors faites ceci. Je vous aime, faites ceci. Je veux que les hommes, la communauté des hommes, vivent le plus heureux possible. » Alors, parce qu'on sait que le péché produit la mort, Dieu nous envoie cette loi pour essayer de nous préserver de la destruction. Mais cette loi, elle est motivée par son amour. Et comme je le dis, deuxième souffle, le deuxième Adam, qui avait été prophétisé. Et souvenez-vous, le dernier paragraphe de l'Ancien Testament. Dans nos Bibles, c'est quoi ? C'est Malachie, dernier paragraphe, qui dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie, avant de la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Et là, l'Ancien Testament, ça arrête. 400 ans de silence, c'est long. Et moi, je me souviens que j'étais en train de lire ce passage et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je devais enseigner ça dans une école de la Bible. Et je me disais, mais pourquoi ce dernier paragraphe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est... ça veut dire quoi? Et j'ai prié tous les jours pendant plusieurs mois. Et au bout d'un mois et demi, j'ai eu la réponse par un de mes fils qui vient vers moi et qui me dit « Papa, 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 il avait 8 ans, papa, papa, je veux te parler. » « Oui, parle-moi. » « Non, pas ici, il faut qu'on aille dans ma chambre. » On va dans sa chambre, il regarde derrière la porte pour voir si personne n'espionnait, parce que des fois, il y a des petites sœurs qui aiment ça. Et puis, ensuite, quand il a vérifié deux fois qu'il n'y avait personne, il me dit « Papa, je suis amoureux. » Pardon ?« Papa, je suis amoureux. Je suis amoureux d'une fille dans ma classe et je veux la marier. » Et là, quand tu es un papa, vraiment, tu te dis « Wow !» Parce que tu t'attends à tout sauf à ça. Et tu dis « Ouais, alors, je dis quoi ?» Il n'y a pas le mode d'emploi, hein, vous savez. Hein. Et donc, qu'est-ce que je dis? Et puis là, je réalise, je me dis, je lui dis pas, c'est pas de ton âge, allez, va jouer dehors. Parce que c'est pas vrai, parce qu'on a tous connu ces amours d'enfance à l'école où, oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Et c'est, alors voilà, c'est parfaitement platonique et pur, mais voilà, on aime. Et puis Dieu a mis ça dans le cœur de l'homme, et puis tant mieux. Mais parfois, ça se réveille un peu tôt. Et là, je décide de le prendre entre hommes. Je lui dis, écoute, voilà, ok, est-ce qu'elle est chrétienne? Tu la connais d'où? Voilà. Il me dit, non, elle n'est pas chrétienne, mais je vais la convertir. Et puis, je dis, alors écoute, c'est pas à nous qui convertissons qui que ce soit, c'est Dieu. Mais bon, voilà, alors je l'ai enseigné, je lui ai dit, écoute, c'est bien, en tout cas, tu trouves une femme, si possible, qui puisse avoir les mêmes convictions que toi. Ça facilite la vie, généralement. Mais, écoute, je comprends pourquoi tu souffres. Tu as raison de souffrir, parce qu'effectivement, tu es trop jeune pour te marier. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas l'épouser. Il me dit, oui, c'est ça que j'ai compris, parce que vous allez peut-être partir dans un autre pays, et puis elle, ses parents vont partir peut-être dans un autre pays, et puis je ne pourrai pas la marier, je vais la perdre. Je dis, ok, tu as raison, mais moi, je peux te dire une chose. C'est que je sais qu'il y a une petite fille quelque part dans le monde qui est préparée pour toi. Et je sais que toi aussi, tu es préparé pour une petite fille quelque part dans le monde. Je ne peux pas te dire aujourd'hui si c'est cette fillette, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y en a une. Est-ce que tu crois ça? Il dit oui. Alors si tu es d'accord, on va prier pour elle. Il dit d'accord. Et on a prié pour sa future femme. Et après, il est sorti, il est parti jouer, au foot d'ailleurs. Mais simplement, à ce moment-là, quand je me suis relevé, j'ai réalisé ce sur quoi je me bagarrais depuis des mois avec cette parole, avec ce dernier paragraphe de l'Ancien Testament. Et c'est comme si tout à coup je comprenais, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, afin de ramener le cœur des enfants vers leur père. Et je réalisais, c'est vrai que je voyage beaucoup depuis des années, c'est vrai que quand je rentrais à la maison, pendant des années, quand les enfants étaient petits, je me faisais une obligation de passer du temps avec chacun d'eux. Parce que je savais que depuis, ça fait 25 ans qu'on a un contrat social avec ma femme et mes enfants, que je peux partir une semaine par mois, mais quand même, mis bout à bout, ça peut faire 3 mois dans l'année. Donc on a ce contrat familial-là, mais quand je suis là, je suis là. Et c'est vrai qu'en tant que père, parfois, c'est un peu compliqué de se retrouver devant un enfant de 3 ans qui vous explique sa journée. Alors, il l'a fait, et puis après, il a fait, et puis toi, ah bon. Et puis je dis, c'est bien, je suis là. Et je ne comprends pas toujours, les mamans ont plus de compréhension pour ça, mais je suis là et c'est bien. Je suis là, c'est ma place. Et ça, tous les soirs, avec chacun de mes 5 enfants, pendant des années et des années et des années. Et j'ai réalisé que cette présence-là, finalement, ça crée quoi? Ça crée de la confiance. Ça crée de la confiance, tout simplement. Ça crée une relation de confiance. Parce que Parce que quand il a ce problème-là, il est venu vers moi en parler. Parce qu'il aurait pu en poser la question dans la cour de récréation. Mais je ne suis pas sûr que dans la cour de récréation, on lui aurait donné un conseil approprié. Mais la relation de confiance va déterminer la mesure d'autorité que l'enfant va accorder à son parent, à son enseignant, à l'adulte. Et c'est tellement important. Et à ce moment-là, je réalise que finalement, Dieu a fait la même chose. Le cœur du Père revient vers le cœur des enfants en Jésus pour créer, non, quoi ? La loi ? Non, ça n'a pas marché. Pour créer une relation d'intimité. Une relation d'intimité, une relation de confiance. Où à nouveau, on peut avoir cette vie qu'avait le premier Adam. Une vie de confiance, une vie d'intimité avec Dieu. Par la grâce et la présence de son esprit, on peut à nouveau se réjouir avec notre papa. Et c'est pour ça que j'ai rajouté dans le titre après, je n'avais pas pensé au début, B-A-B-A, blabla, A-B-A, papa. Ben oui, ça nous ramène à la relation avec le bon père. Et c'est ça toute la richesse de l'amour de Dieu pour nous, de s'être décliné en Jésus pour que nous puissions reconstruire une relation de confiance. Dieu avec nous, c'est vrai que, comme le dit 1 Corinthiens 15, que je citais tout à l'heure, Adam était une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais dans ce Dieu avec nous, nous savons que nous sommes justifiés. C'est souvent qu'on prend, dans cet angle-là, qu'on prend cette étude d'Adam, des deux Adam. Mais en réalité, il y a toujours encore en nous, parfois, la tentation de revenir à la loi. Et Paul dit dans Galates, « Vous êtes séparés du Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. » L'important, ce n'est plus la loi. La loi nous enseigne qui est Dieu. Elle est importante en tant que principe, mais elle ne nous justifiera jamais. Et d'ailleurs, Paul va avoir, et c'est comme ça que j'aimerais terminer, mais c'est radical et c'est d'une violence inouïe. Parfois, on a un peu édulcoré ça dans les traductions, mais en réalité, Paul avait un discours terriblement agressif, parfois. Et il dit, en parlant de ces légalistes qui essaient de ramener la loi dans l'Église, il leur dit, mais vous devriez carrément, non pas simplement vous circoncire, parce que c'était ça le nœud du problème, hein, il voulait imposer la circoncision aux chrétiens d'origine non-juive. Et puis Paul leur dit, castrez-vous, c'est dans la seconde 21, castrez-vous directement, allez-y vous les légalistes, castrez-vous, parce qu'en réalité... Et c'est radical et c'est violent, mais parce qu'en réalité, le projet de Dieu, c'est cette relation. C'est cette relation avec l'homme. Et de remettre la loi comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, mais c'est tout simplement se castrer. Parce que Dieu, au contraire, lui, veut que nos vies débordent. Son esprit est en nous pour que nos vies débordent, pour que la vie soit transmise. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus qui a ressuscité Christ d'entre les morts et puis qui veut transmettre cette vie dans cette même générosité du Père encore tout autour de nous. Alors que Dieu nous aide et que Dieu nous accompagne. Il a déchiré l'acte de condamnation et nous a fait entrer dans le royaume du Fils de son amour, dans tous les domaines, pas simplement aujourd'hui le dimanche matin, au travail, au boulot, dans les loisirs, en amour, dans les relations professionnelles, de loisirs, de familial, de voisinage, à l'école, dans l'éducation, dans les arts. Amen. Alors que Dieu nous aide à vivre cette abondance de vie en communion avec l'Esprit Saint. Amen. Prions. Seigneur, on veut te remercier pour l'abondance de vie qui est là. C'est vrai, le deuxième Adam n'est pas simplement une affaire de justice, mais c'est, je crois, au plus profond de toi, avant tout, une histoire de relation. Une histoire de relation dans laquelle tu nous désires, tu nous veux avec toi, près de toi. Tu veux cette communion, cette intimité. Et tu en auras de cesse, et tu n'as de cesse d'ailleurs au travers de la bouche de Paul, de donner tout un tas d'images d'église, corps de Christ, de temple de Dieu, pierres assemblées, formées pour former une demeure pour notre Dieu. Toute cette dimension d'intimité, de relation, d'intimité, de confiance, d'unité avec toi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire oui et amen. Nous sommes ouverts à cela. Nous avons besoin de cela, parce que c'est inscrit dans notre ADN à l'origine. Et Seigneur, nous voulons que tu restaures cet ADN et que nous puissions vivre en plénitude de joie, d'amour. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la joie et la paix. Au nom de Jésus. Amen.